Pour suivre encore un peu plus loin cette égalité et correspondance de nous aux bêtes, le privilège de quoi notre âme se glorifie de ramener à sa condition tout ce qu'elle conçoit, de dépouiller de qualités mortelles et corporelles tout ce qui vient à elle, de ranger les choses qu'elle estime dignes de son accointance, à dévêtir et dépouiller leurs conditions corruptibles et leur faire laisser à part comme vêtements superflus et vils, l'espesseur, la longueur, la profondeur, le poids, la couleur, l'odeur, l'âpreté, la polissure, la dureté, la mollesse et tous accidents sensibles pour les accommoder à sa condition immortelle et spirituelle, de manière que Rome et Paris que j'ai en l'âme, Paris que j'imagine, je l'imagine, le comprends, sans grandeur et sans lieu, sans pierre, sans plâtre et sans bois. Ce même privilège, dis-je, semble être bien évidemment aux bêtes. Car un cheval accoutumé aux trompettes, aux arquebusades et aux combats, que nous voyons trémousser et frémir en dormant, étendu sur sa litière comme s'il était en la mêlée, il est certain qu'il conçoit en son âme un son de tambourin sans bruit, une armée sans armes et sans corps. Ce lièvre qu'un lévrier imagine en songe, après lequel nous le voyons haleter en dormant, allonger la queue, secouer les jarrets et représenter parfaitement les mouvements de sa course. C'est un lièvre sans poils et sans os. Les chiens de garde que nous voyons souvent gronder en songeant et puis japper tout à fait et s'éveiller en sursaut comme s'ils s'apercevaient quelque étranger arrivé. Cet étranger que leur âme voit, c'est un homme spirituel et imperceptible, sans dimension, sans couleur et sans être. Quant à la beauté du corps, avant de passer outre, il me faudrait savoir si nous sommes d'accord de sa description. Il est vraisemblable que nous ne savons guère ce que c'est que beauté en nature et en général, puisqu'à l'humaine et une autre beauté, nous donnons tant de formes diverses, de laquelle, s'il y avait quelques prescriptions naturelles, nous la reconnaîtrions en commun comme la chaleur du feu. Nous en fantasions les formes à notre appétit. Les uns de la peigne noire et basanée, aux lèvres grosses et enflées, au nez plat et large, et chargent de gros anneaux d'or le cartilage d'entre les naseaux pour le faire pendre jusque à la bouche, comme aussi la balièvre, de gros cercles enrichis de pierreries, si bien qu'elle leur tombe sur le menton, et à leur grâce de montrer leurs dents jusque au-dessous des racines. Au Pérou, les plus grandes oreilles sont les plus belles, et les entendent autant qu'ils peuvent par artifice. Et un homme d'aujourd'hui dit avoir vu, en une nation orientale, ce soin de les agrandir en tel crédit et de les charger de pesants joyaux, qu'à tout coup il passait son bras vêtu au travers d'un trou d'oreille. Il est d'ailleurs des nations qui noircissent les dents avec grand soin et ont à mépris de les voir blanches. Ailleurs, ils les teignent de couleur rouge. Non seulement en basque, les femmes se trouvent plus belles la tête rase, mais assez ailleurs, et qui plus est en certaines contrées glaciales, comme dit Pline. Les mexicaines comptent entre les beautés et la politesse du front, et où elles se font le poil par tout le reste du corps, elles le noircissent au front, et peuplent par art, et ont en si grande recommandation la grandeur des tétins, qu'elles affectent de pouvoir donner la mamelle à leurs enfants par-dessus l'épaule. Nous formerions ainsi la laideur. Les Italiens la façonnent grosse et massive, les Espagnols vidée et étriée, et entre nous, l'un la fait blanche, l'autre brune, l'un molle et délicate, l'autre forte et vigoureuse. Qui demande de la maignardise et de la douceur, qui de la fierté et majesté. Tout ainsi que la préférence en beauté que le bâton attribue à la figure sphérique, les épicuriens la donnent à la pyramidale plutôt, ou carrée, et ne peuvent avaler un dieu en forme de boule. Mais, quoi qu'il en soit, nature ne nous a non plus privilégiés en cela qu'au demeurant sur ses lois communes. Et si nous nous jugeons bien, nous trouverons que s'il est quelques animaux moins favorisés en cela que nous, il y en a d'autres, et en grand nombre, qui le sont plus. A multis animalibus decore vincipur, voire des terrestres, nos compatriotes. Car quant aux marins, laissant la figure qui ne peut tomber en proportion tant elle est autre, en couleur, en netteté, police, sur disposition, nous leur cédons assez, et non moins en toute qualité aux aérés. Et cette prérogative que les poètes font valoir de notre stature droite, regardant vers le ciel son origine, elle est vraiment poétique, car il y a plusieurs bestioles qui ont la vue renversée tout à fait vers le ciel, et l'encolure des chameaux et des autruches, je la trouve encore plus relevée et droite que la nôtre. Quels animaux n'ont la face au haut et ne l'ont devant et ne regardent vis-à-vis comme nous, et ne découvrent en leur juste posture autant du ciel et de la terre que l'homme? Et quelles qualités de notre corporelle constitution en Platon et en Cicéron ne peuvent servir à mille sortes de bêtes? Celles qui nous retirent le plus, ce sont les plus laides et les plus abjectes de toute la bande. Car pour l'apparence extérieure et forme du visage, ce sont les magots, pour le dedans et partie vitale, c'est le pourceau. Certes, quand j'imagine l'homme tout nu, tout en ce sexe qui me semble avoir plus de part à la beauté, ses tares, sa subjection naturelle et ses imperfections, je trouve que nous avons eu plus de raisons que nul autre animal de nous couvrir. Nous avons été excusables d'emprunter ce que nature avait favorisé en cela plus que nous, pour nous parer de leur beauté et nous cacher sous leurs dépouilles de laine, plumes, poils, soie. Remarquons au demeurant que nous sommes le seul animal duquel le défaut offense nos propres compagnons et seul qui avons à nous dérober en nos actions naturelles de notre espèce. Vraiment, c'est aussi un effet digne de considération que les maîtres du métier ordonnent pour remède aux passions amoureuses l'entière vue et libre du corps qu'on recherche, que pour refroidir l'amitié, il ne faille que voir librement ce qu'on aime. Et encore, que cette recette puisse à l'aventure partir d'une humeur un peu délicate et refroidie, si est-ce un merveilleux signe de notre défaillance que l'usage et la connaissance nous dégoûtent les uns des autres. Ce n'est pas tant pudeur, car et prudence qui rend nos dames si circonspectes à nous refuser l'entrée de leur cabinet avant qu'elles soient peintes et parées pour la montre publique. Là où en plusieurs animaux il n'est rien d'eux que nous n'aimions et qui ne plaise à nos sens, de façon que de leurs excréments même et de leurs décharges, nous tirons non seulement de la friandise au manger, mais nos plus riches ornements et parfums. Ce discours ne touche que notre commun ordre, et n'est pas si sacrilège d'y vouloir comprendre ces divines, supernaturelles et extraordinaires beautés qu'on voit parfois reluire entre nous, comme des astres sous un voile corporel et terrestre. Au demeurant, la part même que nous faisons aux animaux, des faveurs de nature par notre confession, elle leur est bien avantageuse. Nous nous attribuons des biens imaginaires et fantastiques, des biens futurs et absents, desquels l'humaine capacité ne se peut d'elle-même répondre, ou des biens que nous nous attribuons faussement par la licence de notre opinion, comme la raison, la science et l'honneur. Et à eux, nous laissons en partage des biens essentiels, maniables et palpables, la paix, le repos, la sécurité, l'innocence et la santé. La santé, dis-je, le plus beau et le plus riche présent que nature nous sache faire. De façon que la philosophie, voire la stoïque, ose bien dire qu'Héraclitus et Phérécides s'ils eussent pu échanger leur sagesse avec la santé et se délivrer par ce marché l'un de l'hydropisie, l'autre de la maladie pédiculaire qui le paraissait, ils eussent bien fait. Par où ils donnent encore plus grand prix à la sagesse, la comparant et contrepesant à la santé, qu'ils ne font en cette autre proposition qui est aussi des leurs. Ils disent que si Circé eut présenté à Ulysse deux breuvages, l'un pour faire devenir un homme de foi sage, l'autre de sage folle, qu'Ulysse eût dû plutôt accepter celui de la folie que de consentir que Circé eût changé sa figure humaine en celle d'une bête. Et disent que la sagesse même eût parlé à lui en cette manière. « Oh, quitte-moi, laisse-moi là plutôt que de me loger sous la figure écorne d'un âne. » Comment ? Cette grande et divine sapience, les philosophes la quittent donc pour ce voile corporel et terrestre ? Ce n'est donc plus par la raison, par le discours et par l'âme que nous excellons sur les bêtes. C'est par notre beauté, notre beau teint et notre belle disposition de membres pour laquelle il nous faut mettre notre intelligence, notre prudence et tout le reste à l'abandon. Or, j'accepte cette naïve et franche confession. Certes, ils ont connu que ces parties-là, de quoi nous faisons tant de fêtes, ce n'est que vaine fantaisie. Quand les bêtes auraient donc toute la vertu, la science, la sagesse et suffisance stoïque, ce seraient toujours des bêtes, ni ne seraient comparables à un homme misérable, méchant et insensé. Car enfin, tout ce qui n'est comme nous sommes n'est rien qui vaille. Et Dieu, pour se faire valoir, il faut qu'il y retire, comme nous dirons tantôt, par où il appert, que ce n'est par vrai discours, mais par une fierté folle et opiniâtreté que nous nous préférons aux autres animaux et nous séquestrons de leurs conditions et sociétés. Mais, pour revenir à mon propos, nous avons tous notre part, l'inconstance, l'irrésolution, l'incertitude, le deuil, la superstition, la sollicitude des choses à venir, même après notre vie, l'ambition, l'avarice, la jalousie, l'envie, les appétits déréglés, forcenés et indomptables, la guerre, le mensonge, la déloyauté, la détraction et la curiosité. Certes, nous avons étrangement surpayé ce beau discours, de quoi nous nous glorifions, et cette capacité de juger et connaître, si nous avons acheté au prix de ce nombre infini des passions auxquelles nous sommes incessamment en prise. S'il ne nous plaît de faire encore valoir, comme fait bien Socrate, cette noble prérogative sur les bêtes, que où nature leur a prescrit certaines saisons et limite à la volupté vénérienne, elle nous en a lâché la bride à toutes heures et occasions. De quels fruits pouvons-nous estimer avoir été Varro et Aristote cette intelligence de tant de choses? Les a-t-elle exemplées des incommodités humaines? Ont-ils été déchargés des accidents qui pressent un crocheteur? Ont-ils tiré de la logique quelques consolations à la goutte pour avoir su comme cette humeur se loge aux jointures? L'en ont-ils moins senti? Sont-ils entrés en composition de la mort pour savoir qu'aucune nation s'en réjouisse? Et du cocuage pour savoir les femmes être communes en quelques régions? Au rebours, ayant tenu le premier rang en savoir, l'un entre les Romains, l'autre entre les Grecs, et en la saison où la science fleurissait le plus, nous n'avons pas pourtant appris qu'ils aient eu aucune particulière excellence en leur vie. Même le Grec a ses affaires à se décharger d'aucune tâche notable en la sienne. A-t-on trouvé que la volupté et la santé soit plus savoureuse à celui qui sait l'astrologie et la grammaire, et la honte et pauvreté moins importunes. J'ai vu en mon temps, cent artisans, cent laboureurs, plus sages et plus heureux que des recteurs de l'université, et lesquels j'aimerais mieux ressembler. La doctrine, se met à vie, tient rang entre les choses nécessaires à la vie, comme la gloire, la noblesse, la dignité, ou pour le plus comme la richesse, et telles autres qualités qui servent vraiment, mais de loin, et plus par fantaisie que par nature. Il ne nous faut guère non plus d'office, de règles et de lois de vivre en notre communauté, qu'il en faut grues et fourmis en la leur. Et néanmoins, nous voyons qu'elles s'y conduisent très ordonnément, sans érudition. Si l'homme était sage, il prendrait le vrai prix de chaque chose, selon qu'elle serait la plus utile et propre à sa vie. Qui nous comptera par nos actions et déportements, il s'en trouvera plus grand nombre d'excellents entre les ignorants qu'entre les savants, je dis en toutes sortes de vertus. La vieille Rome me semble en avoir bien porté de plus grande valeur, et pour la paix et pour la guerre, que cette Rome savante qui se ruina soi-même. Quand le demeurant serait tout pareil, au moins la prudomie et l'innocence demeureraient du côté de l'ancienne, car elle loge singulièrement bien avec la simplicité. Mais je laisse ce discours qui me tirerait plus loin que je ne voudrais suivre. J'en dirai seulement encore cela, que c'est la seule humilité et soumission qui peut effectuer un homme de bien. Il ne faut pas laisser au jugement de chacun la connaissance de son devoir. Il le lui faut prescrire, non pas le laisser choisir à son discours. Autrement, selon l'imbécilité et variété infinie de mes raisons et opinions, nous nous forgerions enfin des devoirs qui nous mettraient à nous manger les uns les autres, comme dit Épicure. La première loi que Dieu donna jamais à l'homme, ce fut une loi de pure obéissance. Ce fut un commandement nu et simple où l'homme n'eut rien à connaître et à causer, d'autant que l'obéir est le propre office d'une âme raisonnable, reconnaissant un céleste supérieur et bienfacteur. De l'obéir et céder naît toute autre vertu, comme du cuider tout péché. Et au rebours, la première tentation qui vint à l'humaine nature de la part du diable, sa première poison s'insinua en nous par les promesses qu'il nous fit de science et de connaissance. Et les sirènes, pour piper Ulysse en Homère, et l'attirer en leur dangereux et ruineux lac, lui offrent en don la science. La peste de l'homme, c'est l'opinion de savoir. Voilà pourquoi l'ignorance nous étant recommandée par notre religion comme pièce propre à la créance et à l'obéissance. En ceci, il y a une générale convenance entre tous les philosophes de toute secte que le souverain bien consiste en la tranquillité de l'âme et du corps. Mais où la trouvons-nous? Il semble à la vérité que nature, pour la consolation de notre état misérable et chétif, ne nous est donné en partage que la présomption. C'est ce que dit Épictète, que l'homme n'a rien proprement sien que l'usage de ses opinions. Nous n'avons que du vent et de la fumée en partage. Les dieux ont la santé en essence, dit la philosophie, et la maladie en intelligence. L'homme, au rebours, possède ses biens par fantaisie, les maux en essence. Nous avons eu raison de faire valoir les forces de notre imagination, car tous nos biens ne sont qu'un songe. Oyez, bravez, ce pauvre et calamiteux animal ! Il n'est rien dit, Cicéron, si doux que l'occupation des lettres. De ces lettres, dis-je, par le moyen desquelles l'infinité des choses, l'immense grandeur de nature, les cieux en ce monde même, et les terres et les mers nous sont découvertes. Ce sont elles qui nous ont appris la religion, la modération, la grandeur de courage, et qui ont arraché notre âme des ténèbres pour lui faire voir toutes choses hautes, basses, premières, dernières et moyennes. Ce sont elles qui nous fournissent de quoi bien et heureusement vivre et nous guident à passer notre sage sans déplaisir et sans offense. Cet huissier ne semble-t-il pas parler de la condition de Dieu, tout vivant et tout puissant? Et quant à les faits, 1000 femmelettes ont vécu au village une vie plus équable, plus douce et plus constante que ne fut la sienne. Voilà des paroles très magnifiques et belles, mais un bien léger accident, 1000 entendements de ces stuici en pire état que celui du moindre berger. Nonobstant ce Dieu précepteur et cette divine sapience. De même impudence à cette promesse du livre de Démocritus, je m'en vais parler de toutes choses. Et ce sot titre qu'Aristote nous prête de Dieu mortel, et ce jugement de Chrysippus que Dion était aussi vertueux que Dieu. Et mon Sénèque reconnaît, dit-il, que Dieu lui a donné le vivre, mais qu'il a de soi le bien vivre. Conformément à cet autre, in virtute ue gloriamur. Ceci est aussi de Sénèque, que le sage a la fortitude pareille à Dieu, mais en l'humaine faiblesse par où il le surmonte. Il n'est rien si ordinaire que de rencontrer des traits de pareille témérité. Il n'y a aucun de nous qui s'offense tant de se voir apparier à Dieu, comme il fait de se voir déprimé au rang des autres animaux, tant nous sommes plus jaloux de notre intérêt que de celui de notre Créateur. Mais il faut mettre au pied cette sotte vanité et secouer vivement et hardiment les fondements ridicules sur quoi ces fausses opinions se bâtissent. Tant qu'il pensera avoir quelques moyens et quelques forces de soi, jamais l'homme ne reconnaîtra ce qu'il doit à son maître. Il fera toujours de ses œufs poules, comme on dit, il le faut mettre en chemise. Voyons quelques notables exemples de l'effet de sa philosophie. Posidonius est empressé d'une si douloureuse maladie qu'elle lui faisait tordre les bras et grincer les dents, pensait bien faire la figue à la douleur pour s'écrier contre elle « Oh, tu as beau faire, si ne dirais-je pas que tu sois mal !» Il sent même passion que mon laquais, mais il se brave sur ce qu'il contient au moins sa langue sous les lois de sa secte. Arcésilas, étant malade de la goutte, Carneades, qui le vint visiter, s'en retournait tout fâché. Il le rappela, et lui montrant ses pieds et sa poitrine, « Il n'est rien venu de là ici, lui dit-il. Celui-ci a un peu meilleure grâce, car il sent avoir du mal et en voudrait être dépêtré. Mais de ce mal, pourtant, son cœur n'en est pas abattu et affaibli. L'autre se tient en sa roideur, plus, je crains, verbale qu'essentielle. Et Dionysius et Racléotès, affligés d'une cuisson véhémente des yeux, furent rangés à acquitter ses résolutions stoïques. Mais quand la science ferait par effet ce qu'ils disent, démousser et rabattre l'aigreur des infortunes qui nous suivent, que fait-elle ? Que ce qui fait beaucoup plus purement l'ignorance et plus évidemment. Le philosophe Pyrrhon, courant en mer le hasard d'une grande tourmente, ne présentait à ceux qui étaient avec lui à imiter que la sécurité d'un pourceau qui voyageait avec eux regardant cette tempête sans effroi. La philosophie, au bout de ses préceptes, nous renvoie aux exemples d'un athlète et d'un muletier, auxquels on voit ordinairement beaucoup moins de ressentiments, de mort, de douleur et d'autres inconvénients, et plus de fermeté que la science n'en fournit qu'à aucun qui n'y fut né et préparé de soi-même par habitude naturelle. Qui fait qu'on incise et taille les tendres membres d'un enfant et ceux d'un cheval plus aisément que les nôtres, si ce n'est l'ignorance? Combien on a rendu de malade la seule force de l'imagination? Nous en voyons ordinairement se faire saigner, purger et médeciner pour guérir des maux qu'ils ne sentent qu'en leur discours. Lorsque les vrais mots nous faillent, la science nous prête les siens. Cette couleur et ce teint vous présagent quelques défluxions catéreuses. Cette saison chaude vous menace d'une émotion fiévreuse. Cette coupure de la ligne vitale de votre main gauche vous avertit de quelques notables et voisines indispositions. Et enfin, elle s'en adresse tout détroussément à la santé même. Cette allégresse et vigueur de jeunesse ne peut arrêter en une assiette. Il lui faut dérober du sang et de la force, de peur qu'elle ne se tourne contre vous-même. Comparer la vie d'un homme asservi à telles imaginations à celle d'un laboureur, se laissant aller après son appétit naturel, mesurant les choses au seul sentiment présent, sans science et sans pronostic, qui n'a du mal que lorsqu'il l'a, ou l'autre a souvent la pierre en l'âme avant qu'il l'ait au rein, comme s'il n'était point assez à temps pour souffrir le mal, alors qu'il y sera, il l'anticipe par fantaisie et lui court au devant. Ce que je dis de la médecine se peut tirer, par exemple, généralement à toute science. De là est venue cette ancienne opinion des philosophes qui logeait le souverain bien à la reconnaissance de la faiblesse de notre jugement. Mon ignorance me prête autant d'occasions d'espérance que de crainte, et n'ayant autre règle de ma santé que celle des exemples d'autrui, et des événements que je vois ailleurs en pareille occasion, j'en trouve de toutes sortes, et m'arrête aux comparaisons qui me sont plus favorables. Je reçois la santé les bras ouverts, libre, pleine et entière, et aiguise mon appétit à la jouir, d'autant plus qu'elle m'est à présent moins ordinaire et plus rare. Tant s'en faut que je trouble son repos et sa douceur par l'amertume d'une nouvelle et contrainte forme de vivre. Les bêtes nous montrent assez combien l'agitation de notre esprit nous apporte de maladies. Ce qu'on nous dit de ceux du Brésil, qu'ils ne mouraient que de vieillesse, on l'attribue à la sérénité et tranquillité de leur air, je l'attribue plutôt à la tranquillité et sérénité de leur âme. Décharger de toute passion, pensée et occupation tendue ou déplaisante. Comme gens qui passaient leur vie en une admirable simplicité et ignorance, sans lettres, sans loi, sans roi, sans religion quelconque. Et d'où vient ce qu'on trouve par expérience, que les plus grossiers et plus lourds sont plus fermes et plus désirables aux exécutions amoureuses? Et que l'amour d'un muletier se rend souvent plus acceptable que celle d'un galant homme. Sinon, quand c'est ici, l'agitation de l'âme trouble sa force corporelle, la rompt et lasse, comme elle lasse aussi et trouble ordinairement soi-même. Qui la dément? Qui la jette plus coutumièrement à la manie que sa promptitude, sa pointe, son agilité et enfin sa force propre? De quoi se fait la plus subtile folie que de la plus subtile sagesse? Comme des grandes amitiés naissent des grandes inimitiés, des santé vigoureuses, les mortelles maladies. Ainsi les rares et vives agitations de nos âmes, les plus excellentes manies et plus détraquées. Il n'y a qu'un demi-tour de cheville à passer de l'un à l'autre. Aux actions des hommes insensés, nous voyons combien proprement ça devient la folie avec les plus vigoureuses opérations de notre âme. Qui ne sait combien est imperceptible le voisinage entre la folie avec les gaillardes élévations d'un esprit libre et les effets d'une vertu suprême et extraordinaire. Platon dit les mélancoliques plus disciplinables et excellent. Aussi n'en est-il point qui ait tant de propension à la folie. Infinis esprits se trouvent ruinés par leur propre force et souplesse. Quel sot vient de prendre de sa propre agitation et allégresse l'un des plus judicieux, ingénieux et plus formés à l'air de cette antique et pure poésie qu'autre poète italien n'ait de longtemps été? N'a-t-il pas de quoi savoir gré à cette sienne vivacité meurtrière, à cette clarté qu'il a aveuglée, à cette exacte et tendue appréhension de la raison qu'il a mis sans raison, à la curieuse et laborieuse quête des sciences qui l'a conduit à la bêtise, à cette rare aptitude aux exercices de l'âme qui l'a rendu sans exercice et sans âme. J'eus plus de dépit encore que de compassion de le voir à Ferrare en si piteux état, survivant à soi-même, méconnaissant et soi et ses ouvrages, lesquels, sans son sceau et toutefois à sa vue, on a mis en lumière, incorrigé, informe. Voulez-vous un homme sain, le voulez-vous régler et en ferme et saine posture? Affublez-le de ténèbres d'oisiveté et de pesanteur. Il nous faut abêtir pour nous assagir et nous éblouir pour nous guider. Et si on me dit que la commodité d'avoir l'appétit froid et mousse aux douleurs et aux maux tire après soi cette incommodité de nous rendre aussi par conséquent moins aigus et friands à la jouissance des biens et des plaisirs, cela est vrai. Mais la misère de notre condition porte que nous n'avons tant à jouir qu'à fuir, et que l'extrême volupté ne nous touche pas comme une légère douleur. Nous ne sentons point l'entière santé comme la moindre des maladies. Notre bien-être, ce n'est que la privation d'être mal. Voilà pourquoi la secte de philosophie qui a le plus fait valoir la volupté encore l'a-t-elle rangée à la seule indolence. Le n'avoir point de mal, c'est le plus avoir de bien que l'homme puisse espérer, comme disait Ennius. Car ce même chatouillement et aiguisement qui se rencontre en certains plaisirs et semble nous enlever au-dessus de la santé simple et de l'indolence, cette volupté active, mouvante et je ne sais comment cuisante et mordante, celle-là même ne vise qu'à l'indolence comme à son but. L'appétit qui nous ravit à l'accointance des femmes, il ne cherche qu'à chasser la peine que nous apporte le désir ardent et furieux, et ne demande qu'à l'assouvir et se loger en repos et en exemption de cette fièvre. Ainsi les autres. Je dis donc que si la simplesse nous achemine à point d'avoir de mal, elle nous achemine à un très heureux état, selon notre condition. Si ne la faut-il point imaginer si plombée qu'elle soit du tout sans sentiment? Car Crantor avait bien raison de combattre l'indolence d'Épicure, si on la bâtissait si profonde que l'abord même et la naissance des maux en fut à dire. Je ne loue point cette indolence qui n'est ni possible ni désirable. Je suis content de n'être pas malade, mais si je le puis, je veux savoir que je le suis et si on me cautérise ou incise, je le veux sentir. De vrai, qui déracinerait la connaissance du mal, il extirperait quand et quand la connaissance de la volupté, et enfin anéantirait l'homme. Le mal est à l'homme bien à son tour. Ni la douleur ne lui est toujours à fuir, ni la volupté toujours à suivre. C'est un très grand avantage pour l'honneur de l'ignorance que la science même nous rejette entre ses bras quand elle se trouve empêchée à nous roidir contre la pesanteur des mots. Elle est contrainte de venir à cette composition, de nous lâcher la bride et donner congé de nous sauver en son giron et nous mettre sous sa faveur à l'abri des coups et injures de la fortune. Car que veut-elle dire autre chose quand elle nous prêche de retirer notre pensée des mots qui nous tiennent et l'entretenir des voluptés perdues, et de nous servir pour consolation des mots présents de la souvenance des biens passés et d'appeler à notre secours un contentement évanoui pour l'opposer à ce qui nous presse. Si ce n'est qu'où la force lui manque, elle veut user de ruse et donner un tour de souplesse et de jambes où la vigueur du corps et des bras vient à lui faillir. Car non seulement un philosophe, mais simplement un homme rassis, quand il sent par effet l'altération cuisante d'une fièvre chaude, quelle monnaie est-ce de le payer de la souvenance de la douceur du vin grec ? Ce serait plutôt lui empirer son marché. De même condition est cet autre conseil que la philosophie donne, de maintenir en la mémoire seulement le bonheur passé et d'en effacer les déplaisirs que nous avons souffert, comme si nous avions en notre pouvoir la science de l'oubli, et conseil duquel nous valons moins encore un coup. Comment ? La philosophie, qui me doit mettre les armes à la main pour combattre la fortune, qui me doit roidir le courage pour fouler aux pieds toutes les adversités humaines, vient-elle à cette mollesse de me faire quenouiller par ces détours couards et ridicules ? Car la mémoire nous représente non pas ce que nous choisissons, mais ce qui lui plaît. Voir, il n'est rien qui imprime si vivement quelque chose en notre souvenance que le désir de l'oublier. C'est une bonne manière de donner en garde et d'empreindre en notre âme quelque chose que de la solliciter de la perdre. Et cela est faux. Et ceci est vrai. Memini etiam quae nolo. Obliwisci non possum quae volo. Je me souviens de ce que je ne veux pas, et l'oublie, je ne peux pas oublier ce que je veux. Et de qui est ce conseil ? De celui, qui seunus sapientem profiteri sita usus, qui a osé avouer qu'il était seul sage. De vuider et de démunir la mémoire, est-ce pas le vrai et propre chemin à l'ignorance ? Nous voyons plusieurs pareils préceptes par lesquels on nous permet d'emprunter du vulgaire des apparences frivoles, où la raison vive et forte ne peut assez, pourvu qu'elle nous serve de contentement et de consolation. Où ils ne peuvent guérir la plaie, ils sont contents de l'endormir et pallier. Je crois qu'ils ne me diront pas ceci, que s'ils pouvaient ajouter de l'ordre et de la constance en un état de vie qui se maintient en plaisir et en tranquillité par quelques faiblesses et maladies de jugement, qu'ils ne l'acceptassent. Il se trouverait plusieurs philosophes de la vie de Lycas. Cet huissier, ayant au demeurant ses mœurs bien réglées, vivant doucement et paisiblement en sa famille, ne manquait à nul office de son devoir envers les siens et étrangers, se conservant très bien des choses nuisibles c'était par quelque altération de sens imprimée en la cervelle une rêverie. C'est qu'il pensait être perpétuellement au théâtre, à y voir des passe-temps, des spectacles et des plus belles comédies du monde. Guéri qu'il fût par les médecins de cette humeur peccante, à peine qu'il ne les mit en procès pour les rétablir en la douceur de ses imaginations. D'une pareille rêverie à celle de Trasivnus, fils de Pythodorus, qui se faisait à croire que tous les navires qui relâchaient au port du Pirée et y abordaient ne travaillaient que pour son service, se réjouissant de la bonne fortune de leur navigation, les recueillant avec joie. Son frère Crito l'ayant fait remettre en son meilleur sens, il regrettait cette sorte de condition en laquelle il avait vécu en liesse et déchargé de tout déplaisir. C'est ce que dit ce vers ancien grec, qu'il y a beaucoup de commodité à n'être pas si avisé. Et l'Ecclésiaste, en beaucoup de sagesse, beaucoup de déplaisir. Et qui acquiert science, s'acquiert du travail et tourment.